Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Les cartes bleues ont chauffé cette semaine. Alors que l'iPhone 16 vient à peine de sortir, Apple a dévoilé pas moins de 4 nouveaux produits. Coup sur coup, Apple a annoncé un nouvel iPad d'entrée de gamme, les iPad Air M3, les MacBook Air M4 et un Mac Studio ultra puissant. Nous allons revenir en détail sur ces nouveautés dans notre récap de la semaine. C'est parti! En préparant l'émission, je me demande parfois quel sujet retenir. Là, la question ne se pose pas. Apple a fait tout le boulot pour moi. Salut Christophe, ça va?
Salut Stéphane. Mieux que la carte bleue de Mac Génération, mais je suis un petit peu déçu parce que j'ai pas finalement eu mon Mac Mini 32Go et 1 Tera de SSD à 699€. Bon, je suis pas étonné. On a essayé de profiter de ce petit bug de l'Apple Store. Je crois que je suis pas le seul, mais voilà, on savait que ça allait sans doute finir comme ça.
Ça n'a pas marché, dommage. Ouais. T'as bien révisé tes fiches concernant tous les nouveaux produits qui ont été annoncés cette semaine?
J'ai l'impression de passer le bac. Non, mais là, tout d'abord, je voulais évoquer ton test de l'iPhone 16 qui est vraiment très bien, mais au final,
le
je ne sais plus.
Le test ou l'iPhone 16 qui est très bien?
Ton test déjà. Mais je ne sais plus trop quoi penser de ce téléphone, en fait. Pense que son appellation 16e le dessert, car on a tendance davantage à le comparer à un iPhone 16 et non pas un SE ou un vieil iPhone. En fait, quand tu le compares par rapport à la gamme, on va dire, traditionnelle, enfin les iPhone 16 et 16 Pro, tu fais quand même beaucoup de soustractions.
Oui.
Pas de puce WB, pas de puce MagSafe, un seul capteur pour la photo, pas de Dynamic Island, le port USB bridé, et la liste continue encore et encore. Alors, il y a certains choix qui sont parfaitement compréhensibles, hein, parce que Apple voulait faire des économies. Mais à la fin, t'as l'impression qu'ils ont enlevé quand même pas mal de choses, mais que le prix n'a pas baissé aussi vite. Bref, je sais pas quoi penser, alors que voilà, par rapport à la question que tu me posais, je pense que c'est un très bon téléphone en plus.
C'est vraiment une question de point de vue, effectivement. C'est si tu regardes par rapport à l'iPhone 16, tu as de quoi être déçu, parce que notamment le MagSafe, qui est quand même une technologie qui était là depuis l'iPhone 12, on ne pensait pas qu'ils allaient le retirer. Même si pour le MagSafe, je trouve qu'il faut vraiment nuancer, parce qu'en mettant une coque, tu retrouves l'aimantation, alors pas la recharge rapide, mais l'aimantation quand même. Mais je pense que du point de vue du grand public, c'est-à-dire des gens qui vont aller dans un Apple Store sans trop savoir en fait quel iPhone acheter et qui ne sont pas intéressés, qui ne connaissent pas en fait tout simplement le WB ou même le MagSafe, l'iPhone 16e, il a quand même l'essentiel. Et l'essentiel, il le fait très bien. Il a une super autonomie. Ça, c'est vraiment une des premières choses recherchées par tout le monde. Il a aussi une grande puissance. Alors après, la puissance de la 18, tout le monde ne va pas s'en servir tout de suite. Quoique, ça lui assure la compatibilité avec Apple Intelligence. Ce qui va compter, alors peut-être pas forcément tout de suite, parce que bon, les fonctions ne sont pas encore tip-top, quoi, mais dans l'avenir, ça pourra sûrement jouer un rôle plus important. Et puis, il a un bel écran. Puis, son appareil photo. Alors, l'absence du tracking-angle est décevante, effectivement. Mais pour le reste, c'est quand même un très bon appareil photo. Donc, il est cher aussi. 719€, c'est sûr que ça fait réfléchir. Après, voilà. Une fois qu'il sera un peu moins cher, je pense qu'il vaudra le coup. Une fois qu'il y aura des promos. Et il y a déjà des promos. En plus, il est déjà à moins de 700€. Donc, c'est une question de prix aussi. Ouais.
Il y a aussi une chose que j'ai réalisée dans ce test et qu'on a peut-être, enfin, qui n'a pas été forcément beaucoup évoqué à son sujet. C'est, enfin, même si c'est pas forcément si important que ça, c'est son poids. Il est quand même relativement léger pour un iPhone relativement grand format, enfin.
Oui, c'est ça, parce que, et ce qui peut être décevant aussi avec l'iPhone 16e, c'est si vous attendiez un iPhone mini, l'iPhone mini, il faut vraiment tirer un trait dessus. Après, le 13 mini, aujourd'hui, il est encore tout à fait valable. Hein, il a iOS 18, il va très sûrement avoir iOS 19, c'est un super iPhone encore. Mais voilà, si vous attendez un petit iPhone, c'est pas le 16e, mais le 16e, malgré tout, il est relativement grand, mais voilà, il fait partie des plus légers pour cette taille-là. Donc ça peut être aussi un argument pour lui.
Et donc on arrive à avoir un iPhone léger avec une bonne, voire une très bonne autonomie. Je crois que ça donne des idées pour l'iPhone Air qu'Apple prépare pour la rentrée.
Effectivement. On va passer alors aux produits qui ont été annoncés cette semaine. Les produits sont tous en précommande actuellement. Ils seront disponibles à partir de mercredi prochain, le 12 mars. Voilà pour la petite introduction. On va traiter les annonces par ordre d'apparition. Alors, pour commencer, il y a eu un nouvel iPad d'entrée de gamme. Cet iPad coûte 409€ comme son prédécesseur, mais son stockage de base a doublé à 128Go, ce qui est toujours bien. Les seuls autres changements concernent la puce et la mémoire vive. L'ancien iPad d'entrée de gamme avait une puce à 14 et 4Go de RAM. Le nouveau a une puce à 16 et 6Go. C'est mieux, mais est-ce que c'est suffisant ?
C'est insuffisant en tout cas pour Apple Intelligence. Avec l'iPhone 15, ce sont les deux derniers terminaux à ne pas gérer les technologies d'intelligence artificielle d'Apple. Bon, sachant que l'iPhone 15 devrait disparaître de la gamme à la rentrée, cet iPad sera vite le seul à avoir cette caractéristique. On va dire que ça va être sa marque de fabrique. En même temps, même si on trouve parfois des Mac Mini à moins de 400€, cet iPad représente vraiment l'entrée de gamme chez Apple. Un peu à la manière du 16e, il est, par rapport à ce qu'on disait, il est vraiment pensé pour les gens qui se fichent d'avoir les dernières technologies. C'est d'ailleurs un iPad qui est très intéressant pour les enfants, mais il est aussi et surtout pensé pour le monde de l'éducation dans lequel il est encore vendu moins cher. Alors, c'est toujours un petit peu difficile d'en demander plus parce que Apple aime quand même malgré tout avoir ses petites marges.
La deuxième nouveauté concernant les tablettes, ce sont les iPad Air M3. La liste des changements est encore plus rapide à faire puisque la puce M2 a été remplacée par une puce M3 et puis c'est tout. Les prix n'ont pas changé, donc à partir de 719€ pour le 11 pouces et 969€ pour le 13 pouces. Est-ce qu'il a un intérêt particulier cet iPad Air M3 ?
En tout cas, on a l'impression que c'est devenu le modèle central de la gamme. Il l'est par son prix, mais également par ses volumes de vente. Si je devais acheter un iPad aujourd'hui, c'est sans doute vers cette gamme que je me tournerais. En fait, la vraie question pour moi, je pense que ce serait la taille. Alors, ouais, voilà, l'iPad Air M2, il est sorti en mai dernier. C'est quand même assez rare de voir Apple renouveler une gamme de produits moins d'un an après leur sortie. Ça l'est d'autant plus pour un iPad. D'ailleurs, ce cours de l'aise se voit dans la liste des nouveautés qui est relativement réduite. Si l'iPad Air M2 avait été synonyme de puce de stockage, du Wi-Fi 6, du cadre centré, de la gestion du Pencil Pro, le nouvel iPad Air, il se résume à sa puce M3, donc il devrait quand même pas être très compliqué à tester. Et puis oui, le clavier qui va avec et qui est toujours vendu très cher a également été revu. Certains se sont étonnés de l'absence de la puce C1 sur ce modèle, mais ça me paraît tout à fait normal. L'iPhone 16e sert de bêta test à grande échelle, un test qui semble d'ailleurs plutôt bien se passer. Enfin, il faudra encore, quand même attendre encore un peu de temps pour en être certain. Je pense qu'Apple va se concentrer dans un premier temps sur l'iPhone et étendre ensuite sa puce à d'autres terminaux. Alors, je suis pas expert sur le sujet, mais en plus, je pense que les puces qui sont utilisées pour les tablettes sont légèrement différentes de celles que l'on retrouve dans les smartphones. En tout cas, quoi qu'il en soit, iPad Air M3 ou iPad Air M2, c'est l'heure de faire de bonnes affaires. Si le passage au M3 ne vous paraît pas foufou, il est toujours temps d'acheter l'ancien modèle à prix réduit.
Ouais, clairement, avec la baisse de prix, ça devient très intéressant d'acheter un iPad Air. On passe au Mac maintenant avec le MacBook Air M4. Comme son nom l'indique, il a une puce M4, mais il a aussi une nouvelle webcam et un coloris bleu ciel. La surprise, la bonne surprise même, c'est que son prix baisse de 100€. Il coûte donc 1199€ en 13 pouces et 1499€ en 15 pouces. Ça a l'air d'être une bonne affaire, non ?
Alors, quand Apple a sorti son communiqué de presse, je me suis rappelé de l'existence du MacBook Air 15 pouces. Qui est, je pense, dans la gamme Apple, il y a le MacBook Air 15 pouces et l'iPhone Plus dans les modèles qui se vendent mal. Je pense que, on a le podium, il faudra trouver un troisième larron, mais ces deux-là, c'est pas mal. En tout cas, ça m'a inspiré cette phrase, voilà. Parce que donc Apple a baissé ses prix. Donc quand il y a quelque chose qui baisse chez Apple, il y a forcément quelque chose qui monte de quelque part. Apple a revu le prix de la plupart des options sur ses ordinateurs. Ouais. RAM et SSD, écran non texturé, Ethernet Gigabit. Alors si vous achetez une grosse config, par exemple un Mac Studio ou un Mac Pro, et que vous voulez prendre énormément de RAM, les hausses dépassent largement les 200€. Pour en revenir au MacBook Air, il y a deux choses. Est-ce que l'on va enfin avoir une webcam décente ? Le MacBook Air est un très chouette ordinateur, mais bon, la webcam, c'était quand même son point faible.
Si c'est la même que sur les MacBook Pro M4, du coup, ça devrait être une bonne webcam. Avec cadre centré, c'est très pratique.
Espérons. L'autre grande avancée de ce MacBook Air M4, c'est de pouvoir enfin le connecter à deux écrans externes sans le refermer. C'était pour certains une limite, je m'inclus un peu là-dedans. Ces histoires de gestion d'écran externe, ça a pesé quand j'ai dû choisir entre un MacBook Air et un MacBook Pro. Surtout que le problème qu'il y avait également, c'était non seulement le circuit graphique du MacBook Air était moins puissant, mais l'autre problème, c'était la quantité de RAM aussi. Mmh. Mais bon, tout ça donc est maintenant résolu.
C'était limité à 24 gigas, maintenant on peut avoir 32 gigas.
Exactement. Alors cette machine, c'est clairement le best-seller de la gamme Mac, enfin surtout le modèle 13 pouces. Il est quand même bien difficile de lui trouver des défauts. Le prix en plus, comme tu dis, est intéressant. En plus, bah, j'ai l'impression de me répéter un peu, mais cela crée des opportunités. Si vous n'avez pas besoin d'une puce M4, on trouve des anciens MacBook Air à des prix assez incroyables en ce moment.
On termine avec le Mac Studio. Alors, pour rappel, le dernier Mac Studio datait de 2023 et il était doté d'une puce M2 Max ou M2 Ultra. La nouvelle génération a une puce M4 Max ou M3 Ultra. Oui, la puce la plus haut de gamme n'est pas basée sur l'architecture M4, mais M3. Le nouveau Mac Studio peut maintenant accueillir jusqu'à 512 Go de RAM et 16 Tera de SSD. On parle bien de Tera, hein. C'est clairement pas pour tout le monde. Mais est-ce que tu y comprends quelque chose à cette histoire de M4 Max et M3 Ultra, Christophe ?
Ce que je sais, c'est que tu évoques une configuration à seulement 17 624 €.
Oui, je précise, dis que c'est pas pour tout le monde. Hein.
Je précise que la trésorerie de Mac Génération a dit non. Mais si Apple veut nous envoyer un modèle pour qu'on teste, avec plaisir. Je vais reprendre un tout petit peu le problème. Il y a deux questions qui sont intimement liées. Alors, pourquoi Apple sort un M3 Ultra et un M4 Max pour la même machine ? Et l'autre question, c'est pourquoi Apple a mis à jour le Mac Studio et pas le Mac Pro ?
Ouais.
Jamais de chance, ce pauvre Mac Pro, hein, ça, c'est toujours sur lui que ça tombe. Déjà, d'un point de vue marketing, ça va être un petit peu compliqué à expliquer. Quand Apple passe d'une génération à une autre de puces, les changements ne sont pas uniformes. C'est pas globalement, tiens, c'est 15% plus rapide ou 20% plus rapide. Apple fait par exemple évoluer son jeu d'instructions, notamment par rapport à tout ce qui touche l'intelligence artificielle avec AMX. On peut ainsi avoir des gains beaucoup plus importants d'une génération à l'autre, alors que le silicium en lui-même, il est peut-être juste 10 ou 20% plus rapide. Et puis, pour chaque nouvelle génération de SoC, Apple ajoute de nouvelles fonctionnalités. On l'a vu avec la puce M3 qui apportait la prise en charge du ray tracing ou la virtualisation imbriquée. Sur les M4, on sait qu'Apple s'est concentré sur la NPU, l'unité dédiée au calcul pour l'intelligence artificielle, et de manière générale, le M4 possède une plus grosse bande passante. Tout ça fait que l'écart de puissance sera moins important que si on avait eu un M4 Max et un M4 Ultra. Et cela pourrait être d'autant plus vrai dans le domaine de l'intelligence artificielle où j'imagine Apple tente de vendre quelques Mac Studio. Bon, on attendra de toute manière les tests pour avoir un avis définitif sur tout ça. Je sais que Nicolas se fait déjà des nœuds dans le cerveau. Mais je suis sûr qu'il trouvera d'ailleurs un test où le Mac Studio M4 Max aura de meilleures performances que le Mac Studio M3 Ultra. La question, c'est pourquoi Apple n'a pas fait dans la foulée un M4 Ultra ? Voilà. Peut-être que parce que c'est trop compliqué, peut-être que ça impliquait une sortie dans 6 mois ou 1 an, peut-être qu'Apple travaille sur une toute nouvelle manière de faire des SoC pour ses machines haut de gamme et qu'Apple a adopté pour cette génération une solution transitoire d'un peu bâtarde. Mais à la limite, cela n'empêchait pas de mettre à jour ce pauvre Mac Pro.
Ouais, on va voir ce que Apple lui réserve au Mac Pro. Peut-être une puce M4 ou M5 extrême, c'est un truc... C'était des rumeurs depuis le début de l'architecture Apple Silicon qui ne s'est pas encore concrétisée. On va voir si c'est ça.
Ouais. Ouais, je pense qu'il faut plutôt attendre le M5 parce que voilà, ils ont mis à jour le Mac Studio. Maintenant, ça paraîtrait assez étonnant que le Mac Pro ait sa petite mise à jour dans 3-4 mois. Enfin, ça me paraîtrait assez étonnant en tout cas.
Ouais. Alors, pour rappel, donc, toutes ces machines, tous ces iPads sortiront mercredi prochain. Bien sûr, on publiera des tests tech possibles. Merci pour ce retour sur l'actu, Christophe.
Merci et bon week-end à tous.
Bon week-end à tous. Et puis, on tenait aussi à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Sortie de Veille. Ça fait plaisir. Salut à tous. Bon week-end.